Si loin, si proche, le rendez-vous des voyages.
Quand en même temps jusqu'au sommet,
encore une heure.
Céline Develay-Mazurel, Laura Larry.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Une petite heure, un peu moins, c'est effectivement le temps que nous allons passer ensemble pour atteindre le sommet. Que dis-je ? Les sommets. En compagnie d'une invitée de choix, une grimpeuse française, plusieurs fois championne du monde d'escalade, alpiniste de renom, star même dans les années 90, respectée par ses pairs et auréolée en 2020 du prestigieux Piolet d'Or Carrière. Une carrière, une vie, passée à la verticale du monde, inspirant des générations de grimpeurs et de montagnards par ses exploits extrêmes. Parfois en solo intégral, sans assurage, le long des parois, parfois en version hivernale et solitaire sur les grandes faces nord des Alpes. À son sujet, on a usé tous les qualificatifs et superlatifs plus ou moins heureux, jugés plutôt. La femme araignée, la libellule du rocher, la grimpeuse de l'impossible, la sauvageonne du vertical, pire, l'alpiniste du charme. Parce que oui, vous l'avez compris, notre invitée est une femme. Et comme bien souvent, avec les femmes et le sport, les exploits ou les titres, on les cantonne surtout au féminin. Oubliant que parfois elles dament aussi le pion aux hommes et abolissent ainsi les catégories de genre bien persistantes dans nos sociétés comme en montagne. Alors oui, notre invitée est une femme, aujourd'hui éditrice, à la tête des éditions du Mont Blanc, et moi pendant quelques jours au Festival international des écrans de l'aventure de Dijon en France, où l'on se retrouve, je vais aussi l'appeler présidente, puisque je suis membre du jury qu'elle préside donc. Mais pour une heure, dans cette émission où l'on va reprendre le fil de sa trajectoire vertigineuse, je vais juste l'appeler de son nom, Catherine Destivelle.
Se détacher de la terre et la laisser en bas.
Voilà. Là, t'es sauvée.
Avec l'altitude, vient le plaisir du vide. Cette sensation enivrante de le vaincre et de le maîtriser. Cette fois, nous n'allons pas rester au pied de la montagne. Catherine va nous emmener avec elle. Et livrer ainsi un peu d'elle-même et de la passion qui l'anime.
Catherine Destivelle, bonjour.
Bonjour Céline.
Avec la voix du comédien français Bernard Giraudot dans cet extrait du film Au-delà des cimes, un documentaire datant de 2008 où l'on vous suit en compagnie de vos proches sur les sommets alpins qui vous sont chers, on débute donc ce voyage. Un voyage où l'on va tâcher d'exprimer toutes les facettes de votre passion, on a entendu ce mot, des passions, une passion personnelle, commune aussi à beaucoup de grimpeurs et amoureux des sommets, j'ai nommé la montagne. Est-ce que vous vous rappelez, Catherine Destivelle, de votre première montagne, enfant ou jeune fille, celle qui vous a marqué tout du moins?
Alors, celle qui m'a marquée, ça serait peut-être l'Index. C'est un petit sommet qui se trouve dans la vallée de Chamonix. Mes parents, la famille avait été en Suisse dans la moyenne montagne. Et un jour, un copain de mon père est venu et il a proposé de nous emmener avec mon papa faire l'Index, qui est une petite paroi qui fait, je sais pas, peut-être 200 mètres. Et c'est la première fois que je gravissais un vrai sommet.
Surtout que vous n'avez pas grandi, vous, au pied des montagnes, vous y êtes allée, déjà petite, vous l'avez dit. Mais j'ai lu, puisque vous l'avez raconté dans vos mémoires, ou en tout cas dans une biographie, puisque vous étiez encore jeune quand vous l'avez écrit ce livre, en tout cas que c'était en faisant le mur, en cachant à vos parents, vous échappez belle, puisque vous quittiez la région parisienne où vous viviez, pour aller justement vous mesurer aux Alpes, incognito presque, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit que c'était finalement au début, en tout cas, une passion presque secrète, discrète en tout cas.
Oui, alors après cette première petite ascension, j'avais 10 ans, et j'ai eu de la chance que mes parents m'inscrivent au club alpin français, mais au cadet du CAF. Et j'étais assez bonne en escalade. Et très vite, j'ai été aperçue par des grimpeurs assez forts qui m'ont proposé et permis d'aller en montagne avec eux. Et bien évidemment, j'avais 13 ans, 14 ans, 15 ans. Mes parents n'auraient pas accepté que je parte avec ces gens-là, qui étaient plus âgés, qui avaient... Bon, ils avaient tous un métier, parce qu'ils sortaient des grandes écoles et étaient ingénieurs ou chercheurs. Mais surtout, ils avaient peur que j'aie de mauvaises notes, parce que ça m'aurait fatigué de partir en week-end. Du coup, je ne le disais pas.
Alors, vous leur disiez quoi?
Je leur disais que j'allais à Fontainebleau, toujours avec les cadets du CAF. Puis en fait, j'étais pas du tout avec les cadets du CAF, j'étais avec des gens plus expérimentés qui m'emmenaient dans des vraies montagnes et des vraies parois.
Parce que Fontainebleau, il faut le dire, c'est un peu la Mecque, ou en tout cas le terrain de jeu des grimpeurs avec des blocs de grès. Et c'est là où les urbains s'entraînent.
Oui, en fait, l'escalade pure est, on peut dire, est presque née à Fontainebleau. À partir des années 1910-1919, les premiers alpinistes s'entraînaient là le week-end. Il faut dire que les premiers alpinistes parisiens ou issus de la plaine, et, ouais, ils étaient parisiens en fait, et c'était leur terrain d'entraînement. Ils allaient à Chamonix ensuite l'été pour ouvrir des nouvelles voies, qui étaient mal perçues par les guides locaux, parce qu'en fait, ils étaient beaucoup plus forts qu'eux, parce qu'ils s'entraînaient tous les week-ends là. Et donc j'avais la chance d'habiter pas loin.
Alors dans le mot passion, il y a l'idée d'une attraction, on peut dire, irrésistible, supérieure, parce que c'est bien connu, les montagnes attirent, et des fois rien qu'en les regardant. Et à ce sujet, écoutons, si vous le voulez bien, le grand alpiniste italien Walter Bonatti, ici interrogé en 2002 au micro de Marie-Hélène Freissé.
Bien, le Grand Capucin, pour moi, était la première fois que je l'ai vu, même je ne savais pas qu'il était le Grand Capucin et qu'il était un grand problème alpinistique. Je me suis épouvanté à l'idée qu'un homme aurait pensé d'aller attaquer ces rochers. Et puis, le camp a voulu qu'après une année, j'étais moi-même à attaquer ces rochers.
Donc cette épouvante a stimulé votre envie d'un défi. Qu'est-ce que ça a provoqué chez vous ?
Eh bien, mon alpinisme, je peux dire qu'avant tout, plus qu'un plaisir de grimper, c'est un confront avec la grande nature. La grande nature me provoque. Le Capucin, du point de vue alpinistique, a été une provocation, comme toutes les autres choses que j'ai faites dehors de l'alpinisme. Parce qu'il me permet, cette provocation, de me mesurer avec cette grande sévère nature et surtout avec moi-même dedans. C'est être soi-même et répondre à un besoin que le monde, la vie, nous donne. J'ai répondu seulement à mon instinct, à mon désir, à mon émotion du moment.
Catherine Destivel, le maestro Walter Bonatti vient de faire ici référence au Grand Capucin et à la voie désormais mythique, qui porte son nom d'ailleurs, que l'alpiniste va terminer en 1951, signant par là une première dans le massif du Mont Blanc. Et on vient de l'entendre, Bonatti a parlé du besoin qu'il animait de se mesurer à la grande nature. Est-ce que c'était ça aussi pour vous, être soi dans la grande nature que vous alliez chercher ?
Alors je suis d'accord avec le fait d'être soi, mais de se mesurer, c'est plutôt de partir dans l'aventure, c'est jouer avec une paroi. Moi, pour moi, c'est jouer. C'est jouer avec la structure, comment je vais m'y prendre pour gravir telle ou telle paroi ou tel passage. En fait, c'est assez... c'est un jeu avec la structure, et c'est ça qui m'anime. Et ce n'est pas du tout un combat. Contrairement à Walter Bonatti, quand on lit ses récits, c'est souvent un peu un combat. Moi, pas trop. J'aime bien prendre du plaisir,
c'est
avant
ça.
Tout. C'est un défi par rapport à soi-même, évidemment, mais c'est pas un combat, c'est juste bien m'y préparer pour prendre du plaisir tout le long de l'ascension ou du projet.
Et alors, en vous entendant, on comprend bien à quel point la grimpe, à commencer par l'escalade, c'est un art de vivre, un mode de vie, vous en avez parlé, c'est aussi un plaisir, mais aussi un mode de vie qui a ses codes, son langage, ses techniques, ses cotations. Alors, il faut le dire un petit peu, en France, on va, dites-moi si je me trompe, de 1 à 9 B+, voire C, c'est ça ?
Oui, on va presque jusqu'à 9 C, ouais.
Ouais. Et puis, il y a aussi des héros, des grandes figures, bref, une histoire. Et récemment, en tant qu'éditrice aux éditions du Mont Blanc, vous êtes lancée justement dans une aventure éditoriale qui consiste à raconter justement l'histoire de l'escalade en BD. Passion savante aux origines de l'alpinisme et de l'escalade, 1492, et l'ascension mythique du Mont Aiguille.
Il y a 500 ans, Antoine de Ville et ses compagnons parvenaient sur ce sommet. Et il est évident qu'à cette époque, pour attaquer une paroi comme la paroi du Mont Aiguille, il fallait, sur le plan psychologique, c'était quelque chose certainement d'extrêmement difficile. C'est pourquoi on peut vraiment parler de naissance de l'alpinisme, car la montagne à cette époque était des démons, des dragons, et elle était réputée inaccessible.
Alors cette ascension, elle a été commandée par le roi de France de l'époque, Charles VIII, qui a été interpellé, on pourrait dire, par cette montagne qui a une forme tout à fait particulière. Et il y a eu une sorte de défi lancé par le roi à l'un de ses capitaines, Antoine de Ville, donc un militaire, de prendre cette montagne et de rendre en quelque sorte accessible ce qui ne l'était pas, de prendre un symbole, de découvrir aussi, d'explorer d'une certaine manière, un peu dans l'esprit des grandes découvertes, ce qu'il pouvait y avoir au sommet de cette montagne. Et Antoine de Ville, qui était habitué à la prise des cités fortifiées, savait manier les échelles. Et il a donc escaladé, puisque c'est de là que vient le mot, il a escaladé le Mont Aiguille. Il ne s'y est pas vraiment pris comme on pourrait le faire aujourd'hui pour faire de l'escalade avec des cordes, des rappels, des mousquetons. Mais il a déployé des trésors de charpentier, on pourrait dire, pour construire de très nombreuses échelles et avec des sortes d'échafaudages arriver jusqu'au sommet du Mont Aiguille.
Catherine d'Estival, il était une fois l'escalade. C'est le nom de votre dernier ouvrage, une BD donc, coécrite avec David Chambre et illustrée par Laurent Bidot. Il était une fois l'escalade, une histoire qui débute symboliquement, on l'a entendu là, avec le Mont Aiguille. Mais vous soulignez aussi dans votre BD comment finalement, depuis la nuit des temps, bien en dehors de ces grandes entreprises royales et très politiques quand même, on l'a entendu, comment finalement l'homme a, depuis la nuit des temps, cherché à prendre de la hauteur, à trouver refuge dans ces hauteurs. Et ça, je trouve ça très beau parce que ça montre exactement ce que vous avez décrit aussi dans le plaisir de se mesurer aux parois. On sent que l'homme a toujours cherché à le faire.
Alors l'homme a toujours cherché à grimper, mais au départ, c'était pour se protéger.
C'est ça, il y avait peut-être moins de plaisir.
Voilà, il y avait peut-être moins de plaisir. Après, peut-être qu'on y prend plaisir quand même parce qu'on cherche le moyen d'y arriver. Donc peut-être qu'ils utilisaient des lianes, ils utilisaient des troncs d'arbres pour monter dessus. Enfin, ils avaient des astuces pour grimper vraiment. Et quand ce n'était pas trop difficile, ils grimpaient simplement avec sans artifice. Mais oui, l'homme a grimpé depuis toujours, je pense. Et même pour aller chasser, pour aller chercher du miel dans les falaises. Voilà, l'homme a toujours grimpé. Mais d'ailleurs, il n'y a qu'à observer un enfant. Dès sa naissance, pratiquement, avant de faire ses premiers pas, il va grimper. Donc c'est assez amusant et c'est tout à fait naturel.
Et vous faites justement référence dans votre BD aux falaises de Bandiagara, en pays d'Ogon, où justement le peuple Télém, c'est lui justement placé tout en haut dans les falaises.
Oui, alors on a retrouvé en allant là-bas des habitations Télém en plein milieu de parois. C'était assez difficile d'y accéder, alors on suppose que peut-être il y avait une forêt équatoriale à l'époque et qu'il devait grimper à l'aide de lianes, ou on ne sait pas trop en fait. Ça reste un mystère, et puis les Dogons utilisent encore la falaise pour y mettre leurs morts, donc ils ont des pieux qu'ils mettent dans les falaises, donc il y a forcément des grimpeurs pour y aller, et une fois que le pieu est installé, ils hissent le cercueil là-haut. Ils vont aussi dans les falaises pour aller chercher des fientes d'oiseaux pour servir d'engrais pour leur l'agriculture. Et puis, le miel aussi. Donc, c'est les falaises, c'est les pays d'Ogon. Enfin, en tout cas, il y a quelques années, ils vivaient vraiment dans leurs falaises et ils s'abritaient au pied des falaises. C'est un lieu de vie.
Alors on a entendu cette date de 1492 qui fait aussi évidemment référence au Nouveau Monde et aux grandes découvertes. Oui. Donc c'est un moment où l'horizon s'élargit, il y a comme ça un nouveau monde à l'horizontale et puis il y a aussi ce nouveau monde à la verticale qui naît un peu avec ce Mont Aiguille, sauf qu'il faudra attendre 400 ans, c'est ce qu'on lit dans votre BD, donc la fin du 19e siècle, début 20e, pour que vraiment l'escalade en tant que telle se déploie en tant qu'activité sportive, ludique, on revient au jeu. Et dans votre livre, on retrouve effectivement tout ce temps des pionniers, avec toute une galerie de portraits des Anglais, beaucoup, des Anglais. Italiens, ils sont pionniers les Anglais, sur les falaises de Dresde, Lake District aussi, ou dans les Dolomites, et tout ça avec un équipement, rudimentaire.
L'équipement était rudimentaire forcément pour l'époque, mais on peut dire que le jeu de l'escalade, comme activité sportive, est né en Angleterre. Est né en Angleterre parce que ces Anglais, avec une envie, c'est de sortir de leur île et puis d'aller explorer le monde. Et ils sont arrivés ce qu'on appelle de faire le grand tour. C'était des aristos. Hein,
D'où vient le mot tourisme, d'ailleurs.
Voilà, les aristocrates qui avaient de l'argent, qui étaient éduqués, et donc ils voyageaient en Europe et ils allaient voir les montagnes. Parce que c'est ça qui les attirait. Et ils faisaient ce qu'on appelle le grand tour. Il y avait pas mal de villes, de villages qui faisaient partie de ce tour avec des beaux hôtels où on regardait les montagnes. Et puis très vite, ils sont venus à grimper ces montagnes. Au début, c'était des naturalistes qui voulaient savoir ce qui se passait là-haut, quelle végétation, quels animaux pouvaient survivre là-haut, comment on pouvait survivre, est-ce qu'il y avait assez d'oxygène ou est-ce qu'il n'y avait pas des monstres. Tout ça était, tout au début... Voilà, très observé, puis très vite, ces Anglais ont commencé à gravir ces montagnes. Et alors, au début, ils faisaient des montagnes assez faciles. C'était de la marche dans la neige. Alors, ils étaient accompagnés de ce qu'on appelle des guides, mais ce n'était pas franchement des guides, c'était des porteurs. Parce qu'en fait, quand ils partaient, c'était une expédition. Il fallait de la nourriture, ils emmenaient des bouteilles de vin, ils emmenaient des poulets, ils emmenaient plein de trucs. Et du coup, par contre, les Anglais avaient... C'est un peu eux qui donnaient l'itinéraire. Et puis, pour gravir ces montagnes, par exemple, quand il y avait des pentes de neige un peu raides, les porteurs, les guides locaux... tailler des marches avec des haches dans la neige pour que ce soit plus facile à gravir. Et voilà, et puis progressivement, le jeu s'est développé. Les Anglais ont commencé à s'entraîner en escalade pure, notamment le Peak District, où il y a des petites falaises de grès qui sont très, très intéressantes.
Avec des chaussures cloutées au départ, des espadrilles.
Les chaussures cloutées, c'était pour ne pas glisser sur les pentes en neige. Et donc, ils se sont dit, on va faire la même chose sur le rocher, or que les clous, ça glisse. Ça glisse parce que c'est du métal contre du rocher, c'est pas terrible. Et très vite, les Italiens ont commencé aussi à grimper. Et les Italiens, ils ont vu qu'en grimpant soit en chaussettes, soit en espadrilles, c'était beaucoup mieux. Et donc, ils ont inventé le chausson d'escalade. En fait, ils appelaient ça des chaussures de chat. Et ça exprime bien le fait que ça adhérait bien. Donc, c'était des chaussures un peu montantes avec une semelle d'espadrille encore dessous. Et puis, un jour, un Français qui grimpait à Fontainebleau, qui s'appelle Pierre Alain.
Grande figure.
Oui, une grande figure de l'escalade et de l'alpinisme, a eu l'idée de transformer cette semelle de corde avec du caoutchouc, mettre du caoutchouc. Et le premier chausson d'escalade est né. Ça s'appelle la Pierre Alain. Voilà, et ensuite il y a eu Pierre Alain a été copié par EB, Édouard Bourdonneau, qui était un cordonnier en fait qui a repris ce chausson. Et ensuite, on connaît l'évolution et les premiers chaussons ont été une révolution parce que tout d'un coup on pouvait faire des choses beaucoup plus techniques.
Et alors tous ces hommes, mais aussi ces femmes, il y en avait, c'était plus minoritaire, et elles étaient parfois encore en jupon, époque oblige évidemment. Tous ces hommes et ces femmes ont eu parfois des destins éclairs, mais en tout cas certains sont entrés dans la légende. Et parmi eux, on retrouve une figure française bien connue du grand public qui a marqué les esprits. On fait un saut dans le temps, important, on arrive en 1983. Le grimpeur Patrick Hedlinger est ici au micro de Geneviève Ladoux après la sortie de son film « La vie au bout des doigts » qui va révolutionner le film d'escalade et d'user aussi le grand public. Hedlinger devient alors une icône de l'escalade libre, l'ange blond, comme on l'appelait.
Quand on vous voit comme ça, face à cette paroi, on peut se demander comment ça fonctionne, comment vous procédez. Ce sont des défis que vous vous lancez à vous-même à chaque fois. C'est quoi pour vous, grimper comme ça, faire de votre vie grimper?
Là, c'est un peu différent parce que c'est du bloc. Mais écoutez, vous voyez, en rocher, enfin, pour moi c'est une discipline sportive au même titre que la gymnastique au niveau des mouvements. La qualité du mouvement, c'est la danse quand c'est bien fait. Et au niveau de la concentration, méditation, ça ressemble un peu au yoga. Alors on peut ressentir en grimpant, c'est tout ce qu'on peut ressentir dans ces trois choses, enfin pour moi personnellement. Et à chaque fois, c'est certain qu'en bloc, c'est un défi, c'est arriver au pied d'un passage de plus en plus difficile et d'essayer de le passer de la façon la plus esthétique possible, en forçant le moins possible, en utilisant ses équilibres. Et... sur le plan physique, c'est assez jouissif ce qu'on ressent au titre du mouvement. Et c'est aussi au niveau concentration, progrès, connaissance de soi quand on fait du solo. Enfin, ça apporte énormément de choses.
Le solo, qu'est-ce que ça vous apporte précisément d'être comme ça justement tout seul? Et apparemment, en tout cas pour les profanes, totalement désarmés, vous n'avez que vos pieds et vos mains.
Oui. Et mon entraînement et une lucidité par rapport à mon niveau en fait. Ce qui m'attire à faire du solo, c'est une meilleure connaissance de moi, c'est de rentrer dans la zone de peur.
Mais si, je vais pas y arriver.
Tout en gardant une marge de sécurité par rapport à la mort, et éliminer, disons, le début de la peur, ce que j'appelle peur parasite, qui en fait c'est une peur injustifiée qu'on a inculquée par la famille ou autre chose. Et je pense que de par l'escalade, on peut justement vaincre cette peur, rentrer dans cette marge. Et en fait, c'est ce qui nous empêche de faire beaucoup de choses, en règle générale dans la vie, d'avoir cette peur-là et de pouvoir l'éliminer, je pense que c'est bien.
Catherine Destivelle, on vous a souvent comparé à Patrick Hellinger, considérant que vous étiez son alter ego féminin, puisque vous grimpiez à la même époque. Et là, on vient d'entendre, Patrick Hellinger a dit beaucoup de choses sur sa pratique. Il a parlé de danse, d'esthétisme, d'émotion aussi, du solo, et puis du fait de dompter la peur. Qu'est-ce qu'il représente, selon vous, Hellinger, pour l'escalade ?
Alors, Hellinger, pour l'escalade, représente la nouvelle façon de pratiquer l'escalade. Et c'est surtout lui qui a fait connaître, enfin ses films en tout cas, qui ont fait connaître l'escalade au grand public.
Oui, dont j'ai parlé, La vie au bout des doigts, ça a été une révélation pour le grand public.
Et donc, en fait, après ce film, beaucoup de gens se sont mis à faire de l'escalade. Et donc, c'était une nouvelle ère qui s'est ouverte. Et puis, très peu de temps après, 3 ans après ses premiers films, une première compétition d'escalade est arrivée.
En 1985,
oui, en Italie. Oui, en 1985. Et du coup... ça a encore médiatisé un peu plus l'escalade. Et aujourd'hui, ça fait plus de 30 ans, l'escalade est aux Jeux Olympiques. Et il y a eu un sacré parcours. Et aujourd'hui, il y a des salles d'escalade qui se créent tous les jours dans les villes. Et ça, c'est nouveau et c'est incroyable. Alors que ces salles d'escalade, au départ, elles ont été inventées par les Anglais, parce que les Anglais... il pleuvait souvent chez eux. Et donc, pour s'entraîner, ils ont eu l'idée, à l'université de Leeds, de poser des prises en bois sur les murs des couloirs. Et ils s'entraînaient comme ça. Et puis, progressivement, les Français ont commencé aussi à faire des murs, mais qui étaient... En fait, il y a eu une erreur au départ, c'est que les Français ont fait des murs extérieurs, parce qu'il ne pleuvait pas assez. Ils trouvaient que c'était pratique de faire ça à l'extérieur, dans des villes. Et puis, en fait, ça a été vite abandonné. Et ensuite, les vrais murs d'escalade indoor, à l'intérieur, dans des gymnases, se sont créés pour qu'on puisse s'entraîner. Alors, il y a maintenant, c'est devenu une activité à part entière. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne font que ça, grimper à l'intérieur. Bon, c'est le jeu, hein. C'est très amusant de grimper soit des blocs, ce qu'on appelle les blocs, c'est des peu de hauteur, il n'y a pas besoin de cordes, ou des voies avec une corde. Et voilà, il y a différents styles de salles d'escalade. Celles qui n'ont pas de plafond, elles vont faire du bloc, et celles qui ont un peu de hauteur. Et maintenant, il y a des églises qui sont réquisitionnées. Oui, à Paris, il y a 2 églises comme ça, il y a une bureau d'escalade dedans. Et en Angleterre, ça fait longtemps qu'ils l'ont fait, mais... En France, c'est nouveau, ça.
Alors, vous l'avez dit, Hellinger, il a allumé la mèche, en quelque sorte, justement, sur l'escalade. Il faut dire quand même qu'il grimpait souvent en solo intégral, ce qui veut dire qu'on n'a pas d'assurage, et sur des voies hyper difficiles, parce que je crois que ça allait jusqu'à 8A. En tout cas, il a quand même incarné aussi un type d'escalade bien particulier.
Alors, l'escalade solo, il est comme moi, on le fait, on était filmé. On n'en a pas, tout seul, on le fait un peu, mais pas tant que ça. Et en fait...
Donc on n'est jamais complètement seul ?
Ouais, si, ça arrive, parce que malgré tout, c'est une façon de pratiquer très, très particulière. C'est assez, comme il dit, assez jouissif. Quand on le fait, c'est qu'on possède vraiment tous ses moyens et qu'on pense, on a l'impression que tout est facile parce qu'on est tellement concentré, tellement absorbé par ce qu'on fait. C'est un état qui est unique.
Méditatif, et, presque, c'est ce que je me dis.
Presque méditatif, ouais, c'est vrai qu'on est dans un état à part et unique et très rare. Parce qu'il est rare d'être aussi concentré sur une action. Parce qu'évidemment, on prend des risques par rapport à...
Ben oui, on met sa vie en jeu.
Voilà, il ne faut pas tomber. Donc, quand on le fait, on est sûr qu'on ne va pas tomber. Ce n'est pas du tout la roulette russe. Là, je viens de publier un livre justement sur Alain Robert. Oui. Alain Robert...
Alors, si vous pouvez nous dire qui c'est.
Alain Robert, c'est un gars qui a mon âge et qui est de la même époque, donc qui est de Hellinger aussi, et qui grimpe les buildings. Il est connu pour cette raison. Mais avant de faire ça, il a fait les solos les plus engagés dans le monde. Et il faisait du 8B en solo sur des prises aléatoires. Donc lui, je pense qu'il ne savait pas si ça allait passer ou pas. c'était un gros pari et c'est le seul à avoir osé ce genre de solo. Et donc son livre, là, il sort bientôt, là, le 15. Et donc il raconte cet état d'esprit dans lequel il se trouve. Et c'est assez étonnant cette façon de pratiquer qui était unique. Et d'ailleurs, Alex Honnold, qui a fait ce film Free Solo, où il grimpe au Yosemite, une paroi de 1000 mètres sans cordes, et Alex Huber, qui est aussi très très fort, qui a grimpé plein de parois en solo dans les Dolomites, ils ont tous les deux accepté de faire la préface de ce livre, parce qu'ils ont... Bah, c'est Alain Robert et une référence, et en fait, Alain n'a jamais... Il n'y a pas eu beaucoup de communication sur lui, et du coup... Voilà, c'est intéressant de voir qu'en fait, dans le monde, c'est le seul à avoir fait des solos aussi engagés.
Parce qu'on sent dans cette pratique qu'il y a vraiment une liberté qui souffle finalement dans chaque mouvement, c'est ça aussi. Et c'est ce que je me dis aussi sur cette période de l'âge d'or de l'escalade que vous avez connue, ces années 80, où finalement l'Occident, l'Europe se prend de passion pour la grimpe, on en a parlé, pour ces figures comme vous, Catherine Destivelle. Il y a les sponsors qui arrivent, l'argent peut-être un peu aussi, des films, vous avez l'air de dire pas trop... des films en tout cas qui font connaître cette discipline très particulière quand il s'agit du solo. Et à l'époque, on a fait de vous une rock star. Je le dis avec le jeu de mots, je l'assume, mais bon, beaucoup d'autres l'ont employé. Comment vous avez traversé cette époque ?
Ça a été parce qu'en fait, j'ai pas trop regardé ce qui se publiait sur moi. J'aimais pas lire des articles, j'aimais pas...
Avec tous ces qualificatifs, voilà.
Et du coup, j'ai réussi à me protéger. Je pense aussi que mes parents ont... Je suis l'aîné de 6, j'étais un numéro parmi tant d'autres, que ça remet les choses à sa place, en disant, bon, ça va, voilà, on n'en parlait pas trop. Et du coup, ça permet de garder les pieds sur terre et de pas... Voilà, de ne pas se laisser influencer. Puis j'étais assez protégée. Il y avait Lothar, qui était mon ami de l'époque et qui avait beaucoup d'expérience dans le showbiz, etc. Et qui me protégeait de tout ça et qui me dit « Non, là, tu perds ton temps, fais pas ci, fais pas ça. » J'étais invitée partout. Et du coup, il a mis un peu des barrières là-dessus et ça m'a permis de rester moi-même, en fait.
Et puis de décrocher quand même au passage quelques titres mondiaux.
Oui, mais ça, c'est les titres mondiaux. J'étais là, je faisais que ça, je m'entraînais, je le voulais. Du coup, j'étais absorbée par mon entraînement, je n'étais pas perturbée par tous les à côté. J'aurais pu ne faire que des mondanités à Paris. Comme je suis originaire de Paris en plus, du coup, c'était assez facile pour moi d'y aller, mais j'y allais pas parce qu'en fait, c'était une façon aussi de me protéger moi.
Après quoi, finalement, vous délaissez la compétition. 1990, c'est un tournant dans votre carrière, un tournant vers l'alpinisme et la haute montagne. On en reparle juste après, Catherine Destivelle, mais tout de suite sur RFI, c'est Jean-Louis Murat et le col de Diane.
Se dévoile Diane, faut pas y compter. Là-haut, apercevoir la dame, faut pas y compter. Vers le château de Murat, la rame, on ne va pas se refaire le drame. Faut pas y compter. Faut pas y compter. Prends garde au loup qui dort au village. Faut pas y compter. Prends l'âne, je te laisse le cheval, faut pas y compter. Du château là-haut sur la montagne, apercevoir Murat la rame, faut pas y compter. Ouh,
Si loin, si proche, tous les voyages sont sur RFI.
Le sport, bel exploit pour Catherine Destivel. La jeune femme âgée de 31 ans a ouvert une nouvelle voie en solitaire dans les Drues. Elle a réussi son ascension après 10 jours d'escalade d'une paroi verticale de 1000 mètres. Comme elle l'a confié à Jean-François Fernandez de Radio France Savoie, ce n'était pas réellement une partie de plaisir.
Ça n'a pas été facile en fait. Je pensais que ce serait beaucoup plus... Enfin, trouver un itinéraire plus évident. Et en fait, je me suis retrouvée dans des fissures très très compactes. Et j'ai passé... je faisais une longueur par jour quoi. Donc ça m'a pris 11 jours en tout, 10 jours. Donc c'était assez dur, en plus je me suis pris le mauvais temps. Mais bon, c'était un beau voyage.
Un beau voyage, c'est ainsi qu'en juillet 91, vous décrivez Catherine Destivel au micro d'Intersoir, on l'a entendu, votre exploit dans les Drues, le premier d'une longue lignée dans votre trajectoire d'alpinisme. Et je me demandais pourquoi celui-là, Catherine Destivel, pourquoi les Drues dans le Mont-Blanc et puis pourquoi vouloir ouvrir une voie en solitaire?
Alors les Drues, c'est parce qu'après avoir gravi en solo le pilier Bonatti, où j'avais mis 4 heures, solo ça veut dire donc sans corde et donc ça va vite, 4 heures, les journalistes m'avaient comparé à Bonatti en disant bah voilà, Destivel a fait la voie en 4 heures et Bonatti 6 jours. Bon, une comparaison stupide. Bonatti avait ouvert cette voie, il avait. Enfin, comme. Voilà, ça n'a rien à voir. Et bien avec d'autres techniques, en plus, il a ouvert ça en 65. Du coup, je me suis dit, au fond, est-ce que moi, je serais capable d'ouvrir une voie toute seule aussi? Voilà. Et donc, à l'époque, j'habitais au pied des Drues, pratiquement. Au départ, je voulais aller au Canada, et puis bon, ça, c'était compliqué, c'était loin. Et puis je me dis, après tout, il y a les Drues sont sous ma fenêtre, je devrais regarder si je trouve pas un itinéraire là-dedans. Et effectivement, j'en ai trouvé un, mais il était super compact et très difficile à gravir. Et puis en plus, avec des. À l'époque, je ne savais pas, mais il y avait plein de morceaux énormes qui ne demandaient qu'à tomber.
Ce qui est le cas d'ailleurs.
Tout est tombé depuis. Mais
ouais, la voie que vous avez ouverte.
Parfois, je plantais un piton, tous ceux que j'avais mis en dessous tombaient. Je ne vous raconte pas le stress. Donc, il y a des jours où je faisais. Mais 30 mètres, ça arrivait quoi. Et puis des jours, j'arrivais, je faisais un peu plus, mais j'étais laminé de fatigue, de concentration, parce que avoir tous ces petits pitons qu'on a mis qui tombent jusqu'au relais pratiquement, c'était horrible. Parce que là, on se dit, si le piton sur lequel je suis lâche, probablement que je ne serais pas morte, mais faire des chutes de 60 mètres, c'est quand même pas terrible.
C'est moins qu'on puisse dire, quand même.
Oui, donc non, je n'étais pas très fière. Et c'est sortie de cette ascension assez épuisée, ouais.
Et en même temps, après ça, vous avez quand même enchaîné les grandes faces nord, je le disais, des Alpes, Eger en 92, Grande Jorasse par l'Éperon Walker en 93 et le Cervin en 94. Des exploits dont on a parlé, qui ont été soulignés pour ce qu'ils sont, évidemment, et puis parfois en rappelant aussi le côté première féminine.
Non,
est-ce que
alors,
ça vous agace ça ou pas?
Oui, ça m'agace, parce que c'est pas première féminine, c'est première tout court.
Mais je sais. Mais sauf que souvent, on y adossait
oui,
le côté féminin.
Mais parce que le problème, c'est que, en fait, ce qui s'est passé après les Drues, j'ai été un peu critiquée par mon milieu. En disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi elle va là?
Surtout, vous avez quitté l'escalade.
Voilà,
vous étiez dans
et les gens ne savaient pas que j'avais fait beaucoup, beaucoup d'alpinisme jeune. Vraiment, je connaissais mieux l'alpinisme que l'escalade, presque. Et du coup, après ça, je me suis dit, je vais faire du vrai alpinisme. Faire du vrai alpinisme, t'es capable de faire des faces nord en glace, en neige, rocher, tout mélangé. Et je me suis dit, j'aimerais faire la face nord de l'Eiger, la face nord des Jorasse et des Cervins. Mais je ne voulais pas faire des premières féminines, je voulais faire des premières tout court. Et du coup, pour faire ça, il faut connaître un peu l'histoire. Savoir comment les autres s'y sont pris, parce que je voulais faire la classique, la voie Eckmeyer dans la face nord de l'Eiger, qui a été ouverte en 38, et je savais qu'il y avait plusieurs alpinistes qui l'avaient fait en solo. Je me suis dit, bon, moi je vais le faire sans repérage, et évidemment je ne voulais pas prendre de risques, parce que cette paroi, elle est connue pour être très dangereuse. On disait que dans les années, jusqu'aux années 70, il y avait 50% des gens qui tentaient cette face se tuaient. Donc, moi, je ne voulais pas me tuer pour une paroi, quoi, clairement. Et donc, j'ai vu que c'était essentiellement lié aux chutes de pierre. Et pour écarter ce danger, j'ai préféré le faire en hiver. Parce qu'en hiver, tout est pris dans la glace, dans la neige, il n'y a plus de chute de pierre. Et il n'y a personne en paroi. Enfin, il n'y avait personne à l'époque. Parce que maintenant, l'hiver est une saison assez courue par rapport justement à ces chutes de pierre en été. Maintenant, avec le réchauffement,
c'est trop dangereux.
Donc, je choisis l'hiver et je voulais le faire dans la journée. Je suis quelqu'un qui grimpe vite, je me dis, bon, je suis capable de le faire. Donc voilà, cette façon-là était une première. Parce que quand on ne connaît pas, qu'on se lance en solo dans une ligne, c'est pas... Voilà, ça ne s'était pas fait sur cette voie.
Alors après quoi, vous délaissez un petit peu les Alpes et puis vous vous élancez aussi sur d'autres montagnes, de très hautes montagnes, en Himalaya ou au Karakoram, avec des compagnons de cordée cette fois. Parce que la montagne, les sommets, les parois, c'est aussi évidemment une affaire collective, une histoire de passion commune et partagée. On écoute tout de suite Lucien Abbey, un grand nom de l'escalade sportive, un Suisse ouvreur de voie et un ami à vous aussi, Catherine.
L'escalade, c'est très très riche comme sport. Ça fait travailler à peu près tous les muscles du corps. Tu penses à rien d'autre qu'à grimper. Ça procure aussi des sensations de joie, comme la méditation, pareil. J'ai pas peur de chuter, j'ai confiance aux cordes, j'ai confiance au matériel qui est posé. Donc tu peux y aller. Avec les années qui passent, forcément tu changes. Ton corps vieillit, j'ai moins envie de m'entraîner. Je suis moins fou aussi. J'ai tellement grimpé que c'est devenu beaucoup moins vital. Ma vie, ça a été d'ouvrir des voies, de grimper. J'ai un master en cailloux. Je pensais pas arriver vieux quand même. J'ai dit non, c'est pas possible avec les risques que je prends. Jamais j'arriverai à la retraite. J'étais très chanceux. Toutes les pierres sont tous passées à côté de ma tête. On n'a jamais eu une qui... Enfin, j'ai eu des petites qui sont tombées sur ma tête, mais pas trop. Donc, pour moi, ça, j'ai envie de leur amener cette chance aux grimpeurs.
Dans cet extrait du documentaire Lulu, ouvreur de voie, Lucien Abbey, donc titulaire, on l'a entendu, d'un master en cailloux, vient d'évoquer une question qui est quand même fondamentale à votre pratique et à la sienne également, c'est celle du risque. Et puis aussi du côté trompe-la-mort, il a dit « j'ai eu de la chance finalement ». Est-ce que vous, Catherine Destivelle, vous considérez comme chanceuse ?
Oui, moi aussi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu deux accidents, je m'en suis sortie, mais j'ai eu beaucoup de chance, ouais. C'était de ma faute, ces accidents-là. Alors là, il parle de chutes de pierre. Les chutes de pierre, parfois, on les prévoit aussi, hein, quand même. On va pas, s'il y a du monde au-dessus, moi, je préfère changer de voie. Parce que c'est risqué. Et si le rocher est un peu délité, il vaut mieux pas y aller. Si le rocher est bon, ça va, mais sinon, on fait attention, quoi. Ouais.
Alors, Lucien Abbey, qu'on a entendu, vous êtes parti avec lui dans les années 80 à Bandiagara, au Mali. On en a parlé de ces fameuses falaises où vous êtes allé en solo intégral. Ça devait être un sacré voyage, ça aussi.
Ah oui, avec Lulu, ouais, c'était super. On a fait pas mal d'expéditions comme ça ensemble. Puis bon, Lulu, il grimpe souvent aussi en solo, donc oui. On a partagé ça ensemble. C'était vraiment sympa. Donc on est parti ensuite aux États-Unis. Après, il est venu avec moi au Tour de Trango en Himalaya. Quand je suis partie avec Jeff Lowe, je lui ai dit, écoute, ce serait bien que tu viennes avec nous parce que il est très fort, Lulu. Puis il est de bonne compagnie, quoi. On s'amuse bien. C'était des bons souvenirs avec Lulu.
On va rester justement un petit peu au Mali avec Issa de Sangohe Blues, voyage en musique sur la radio mondiale.
Ishmaima imajiyadu Ari yo oyo Yarmayen dalakal Z
Senegal, na Niger, Iriza, Berinka, Kirpeitala, Nitarvi, Iriga, Wayanda, la Kalzamangina, Vagabubu, Wayanda, la Kalzamangina, Vashiben. Esari, Shiman, the Jimmy, Esari, Shiman, the Kumbi. Isari shiman da shiri, shiman da kumbi, shiman da yalayan, ashiman da yalayan. Ishimai me imaji yadu, ishimai me imaji yadu, ishimai me soki imaji yadu. Ari jowoyo, yarmayenda lakan.
Pas si loin, si proche, avec la grande alpiniste et grimpeuse française Catherine Destivelle, on est toujours au Festival international des écrans de l'aventure de Dijon, tournant les pages de son destin pas banal sur les sommets du monde, le long des parois, en quête de soi et d'équilibre peut-être. Catherine Destivelle, aujourd'hui vous êtes à la tête des éditions du Mont Blanc, une maison qui propose toutes les formes de récits de montagne, ça va du polar au beau livre en passant par la BD. Il y a aussi des ouvrages jeunesse qui sont très pertinents et qui, je pense, aussi allument la mèche sur l'alpinisme, l'escalade. Je me demandais pourquoi ce choix du livre ? Comment vous êtes arrivé à ça ? Vous avez écrit quand même 9 livres, il faut le dire.
Ah bon ?
En tout, je crois.
J'ai écrit 9 livres ?
Oui, c'est ce que j'ai compté.
Ah oui, je ne savais pas. Mais pourquoi le livre ? J'aime le livre. J'ai toujours lu, même en paroi, même en expédition. Je partais avec plein de bouquins. On voyage quand on lit. Et j'adore ça.
Et puis ça va bien avec la montagne aussi. Avec
je ne sais pas si ça va bien, mais en tout cas, dans les camps de base et tout, ou même au refuge. C'est le voyage dans le voyage, quoi. Et du coup, j'ai eu cette opportunité. C'était au décès de Michel Guérin, qui faisait les éditions Guérin, avec mon ami Bruno Dupetit. On a décidé de monter une boîte pour, pourquoi pas, faire des traductions de littérature qui soient publiées ensuite par Guérin. Puis en fait, on a monté la boîte et on a signé tous les contrats, machin, et tout. Et puis bon... Les éditions Guérin ont eu peur. Donc du coup, on s'est retrouvés avec notre structure et du coup, j'ai continué l'aventure et j'ai pris la tête de la boîte et je fais ça, mais jour et nuit presque.
Et puis, faut
mais
dire.
C'est assez passionnant, hein. C'est passionnant, c'est gratifiant. On crée des livres, on a des contenus, enfin moi j'essaye d'avoir des bons contenus. Par exemple, les livres pour enfants, j'adore. Essayer de leur expliquer ce qu'est la montagne, qui habite la montagne, comment... Là, il y a un livre qui va bientôt sortir, qui s'appelle « Neige et glace », qu'est-ce qui se passe dans l'hiver, sous la neige, comment vivent les animaux, etc. Enfin, c'est très intéressant. Et voilà, du coup, je suis complètement là-dedans. Là, j'ai aussi sorti un livre sur les Alpes et les compositeurs. Il y a plein de compositeurs qui ont trouver l'inspiration dans la montagne. Alors, il y a des marcheurs, mais il y a aussi des contemplatifs, et puis il y a aussi des vrais alpinistes. Et ça, je ne le savais pas. Et c'est en découvrant, c'est des auteurs qui sont venus me voir pour me montrer ça, et c'est très intéressant.
Et puis, les aventures en montagne, ça offre aussi, évidemment, des histoires rocambolesques, palpitantes, dramatiques aussi. On écoute une archivina datant de 1959.
Nous sommes ce soir à l'aérogare d'Orly, d'où une équipe d'alpinistes ne comprenant que des femmes et que dirige Madame Claude Cogan va s'envoler pour aller à la conquête d'un sommet de l'Himalaya. Mais il faut d'abord prendre date. Nous sommes aujourd'hui le 12 août 1959.
Je crois qu'il faut marquer cette date qui va compter dans le sport français et qui nous émeut particulièrement, puisque c'est un exploit qui va être tenté par une équipe de femmes. Madame, vous allez partir dans quelques minutes. Vous allez tenter d'arriver.
L'ascension du Choyo, un sommet de plus de 8000 mètres dans l'Himalaya. C'est une équipe internationale. Il y a 3 Anglaises, 4 Françaises, une Suissesse et une Belge. Et ensuite, il y a 3 Népalaises, dont les 2 filles du Sherpa Tenzing et sa nièce.
Donc, jusqu'au bout, il n'y aura que des femmes dans
Il n'y aura que des femmes et des Sherpas, évidemment, les porteurs locaux qui vont porter nos 4,5 tonnes de matériel jusqu'au camp de base à 4600 mètres. Pardon, le camp de base sera à 5600 mètres.
Oui, alors justement, à 5600 mètres, je suppose que déjà, il y a une certaine fatigue respiratoire.
Oui, assez conséquente, quoi, et qui ne fait qu'augmenter avec l'altitude. Enfin, il y a une acclimatation, on arrive à 5600 mètres très progressivement, puisqu'on va mettre 23 jours de marche pour arriver au camp de base. Si nous réussissons, ce sera une performance, je pense.
Catherine Destivelle, on vient d'entendre la voix de Claude Cogan, qui qui va finalement disparaître dans une avalanche avec deux compagnons de cordée dans cette expédition au Shōyū en Himalaya. Et vous, Catherine Destivelle, vous avez contribué justement à publier un récit inédit sur cette première expédition féminine en Himalaya. Un récit écrit par Micheline Rambaud, qui avait été engagée comme cinéaste. Ça s'appelle Voyage sans retour. C'était important pour vous aussi de raconter cette expédition de l'intérieur avec cette femme, et puis aussi de parler de cette époque où finalement les femmes ont voulu aussi grimper là-haut en Himalaya.
Oui, alors à l'époque, c'était pas très bien reçu.
C'était pas bien vu du tout.
Par la gente alpinistique de l'époque.
Masculine,
qui était que des... Oui, et du coup, ils y croyaient pas du tout et ils ont pas fait beaucoup d'efforts pour les aider. Donc Claude Kogan, chef d'expédition, a dit on y va, etc. Donc le livre que j'ai publié, c'est le carnet de voyage de Micheline Rambaud, qui était à l'époque responsable du film sur l'expédition. Donc elle a 94 ans. Cette dame, et donc elle avait les archives, elle avait les photos, et c'est incroyable, son carnet est comme si on y était, quoi. Elle raconte cette expédition avec les rencontres qu'il faisait. Elle s'est dit, moi je vais faire un film de femmes avec des femmes, mais des femmes, il y a aussi toutes les Sherpanis. Et elle raconte la vie de ces femmes, leurs bijoux, comment elles vivaient. Il y avait beaucoup de porteurs femmes qui marchaient avec des bébés souvent très malades. Et voilà, c'est toute la vie d'une expédition en partant de Katmandou. Et à l'époque, en 59, il n'y a qu'un seul hôtel à Katmandou. C'est rien à voir avec aujourd'hui. Ils sont partis par la route, à pied, sous la pluie. Ça a duré des mois et des mois, leur expédition. J'ai trouvé ce carnet très intéressant et j'ai mis des photos presque tout le long du livre pour qu'on puisse se rendre compte de ce que c'était. Puis elle a beaucoup d'humour. Micheline Rambaud, elle est drôle. Hein.
Et alors aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, évidemment, qui montent, qui gravissent les sommets. Vous en faites partie, mais il y en a plein d'autres avant et puis après vous. On peut dire que vous avez quand même ouvert la voie à beaucoup de femmes et d'hommes aussi. Vous avez conscience de ça, on vous le dit souvent.
On me le dit souvent, oui, et je suis toujours un peu gênée. Mais je suis contente si c'est la vérité. Et je sais que le film Au-delà des cimes a suscité pas mal de passion, de gens qui n'en avaient jamais fait, ou des gens qui avaient un peu abandonné et qui se sont dit « Ah, j'ai envie d'y retourner ». Donc ça, il y a plein de gens qui me le disent, partout. Dès que je vais en montagne, dans les refuges ou sur les chemins, « Ah, c'est votre film qui a fait que... » Voilà, bon, en fait, c'est pas mon film, c'est celui de Rémy Thésier. Moi, je suis l'actrice dedans. Mais
il y a votre trajectoire.
Oui, d'accord. Mais voilà, c'est un ensemble. J'essaye de transmettre et de raconter la montagne, mais pas de façon qui fait peur.
Et puis de transmettre, ce plaisir de la montagne.
Bah, c'est ce qui est le plus important. Le plus important, c'est le plaisir. Et d'ailleurs, les films et les livres sont faits pour ça. C'est-à-dire que pour donner un petit peu de plaisir, même de façon interposée à des gens qui ne connaissent pas tout ça, c'est une passerelle et en espérant que ça les inspire. Par exemple, là, on est à Dijon, je sais que la campagne autour est magnifique. Et il y a plein de petites falaises, il y a de quoi s'amuser, quoi. Prendre plaisir.
Merci Catherine Destivelle.
Merci à vous.
Je rappelle le titre de votre BD, écrite avec David Chambre et Laurent Bidot à l'illustration. Il était une fois l'escalade, paru aux éditions du Mont Blanc. Merci à la Sonothèque de RFI et à l'INA pour leurs archives. Merci aussi au Festival des écrans de l'aventure de Dijon qui nous accueille aujourd'hui. Laure Allary, Céline Develay-Mazurel, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur les ondes de la Radio Mondiale et à tout moment en podcast. J'ai envie de dire, présidente, maintenant il n'y a plus qu'à. On ne va pas aller grimper à Dijon, mais on va aller dans les salles obscures. Hein,
voilà.
C'est ça. Merci.